Nous allons passer tout de suite aux questions et réponses. Comme d'habitude, je vous demande de bien vouloir fermer vos téléphones ou les mettre sur silencieux. Et à toutes les personnes qui vont prendre la parole, veuillez vous présenter ainsi que votre organe de presse. Nous commençons par la gauche. Première question derrière.
Oui, c'est M. Samuel Mimbou du journal Explorateur. Je voudrais poser la question à M. le chargé de l'humanité. Les déplacés, est-ce qu'ils ont-ils, donc ils ont un soin de santé adéquat dans des camps, précisément dans les camps de Mungunga que vous venez de citer? Merci.
Concernant le volet sanitaire dans le camp, il y a des réponses en cours, notamment avec l'UNICEF et l'OMS, et il y a même une campagne de vaccination qui est en cours, qui est plus qu'en cours de préparation, parce que les opérations de vaccination ont commencé le 7 décembre et se poursuivent actuellement dans d'autres sites de déplacés. Mais pour ces questions-là, l'OMS pourrait vous donner davantage plus de détails. Il y a une réponse en cours sur le plan sanitaire, effectivement.
Merci. Prochaine question, s'il vous plaît. ACP.
Merci. Excusez-moi, Kéré Maï de l'Agence congolaise de presse. Madame Marshall, après la conférence de Doha sur le trésor vert, est-ce que le PNUD a pris certaines dispositions pour assurer la préservation de la forêt équatoriale en RDC? Je voudrais poser également une petite question au lieutenant-colonel. Les rebelles sont à 6 km à Muningi. Comment vous pouvez rassurer les populations qui sont à Goma qui ne seront pas infiltrées par les rebelles du M23? Parce que Muningi, c'est à 6 km seulement.
Merci. Florence.
Alors, concernant Doha, le PNUD et le gouvernement congolais, comme vous le savez, le PNUD assiste et accompagne depuis plusieurs années le gouvernement congolais dans toutes les négociations sur le changement climatique. Donc, une délégation est partie à Doha, composée d'experts, composée de représentants de la partie nationale, dont le vice-ministre du budget, si je ne m'abuse, et du ministre de l'Environnement, bien sûr. Ils sont partis présenter le plan, le plan d'action de la RDC dans tout mécanisme RED pour la réduction des émissions et à effet de serre. Et en faisant là, la RDC est l'un des 5 premiers pays au monde à présenter un rapport. Donc, ensuite, une fois que ce plan va être adopté et va être mis en œuvre dans les prochaines années, donc effectivement, des mesures de préservation de l'environnement et de la forêt équatoriale vont être prises. Je n'ai pas encore eu les informations relatives à comment se sont passées comment ce rapport et comment les discussions se sont passées à Doha. J'ai fait la demande, on n'est pas encore revenu vers moi, mais à la conférence de la semaine prochaine, j'essaierai d'apporter une réponse plus précise sur ce qui s'est vraiment passé à Doha. Mais Doha, c'est juste une étape. Le processus, c'est un long processus qui est en cours. Et une fois encore, la RDC est un des pays pilotes en la matière.
Merci. Colonel.
Oui, merci pour votre question. Je dois relever toute sa pertinence et dire que vos préoccupations sont certes légitimes. Mais avant d'y répondre, je voudrais d'abord souligner le fait que, au-delà de l'option militaire dont vous semblez faire allusion, d'autres dynamiques sont initiées depuis peu de temps, notamment les pourparlers qui se passent à Kampala, pour essayer d'apporter une solution politique au problème que nous connaissons depuis quelques mois. Maintenant, comment rassurer la population? Eh bien, nos activités quotidiennes, la population, nous les rassurons tous les jours parce que n'oubliez pas que nous vivons avec ces populations dans la ville de Goma, aux alentours de la ville de Goma, et que la meilleure assurance que nous puissions leur apporter, ce sont les activités quotidiennes que nous menons et qui concourent toutes à apporter le maximum de sécurité à ces populations qui sont aussi bien à Goma qu'aux environs de Goma. Mais seulement, il ne faudra pas tout simplement se focaliser non plus sur la seule situation de Goma, parce que je pense que la crise, elle est au-delà de Goma, elle est dans le Rutshuru, elle est dans le Masisi, et que dans tous ces coins que je viens de citer, la force de la MONUSCO est présente, elle est présente à côté des populations civiles. Elle mène des activités permanentes, que ce soit des patrouilles aériennes, que ce soit des patrouilles à pied, que ce soit des patrouilles de jour, que nous menons tous les jours pour essayer d'apporter un maximum d'assurance, un maximum de réconfort aux populations de cette province qui en ont largement besoin.
Merci. Prochaine question, s'il vous plaît. Prenons d'abord une dame.
Merci pour la parole. C'est Aline Amissi de Deux As Télévision. Ma question, je la pose au porte-parole militaire. Si on peut avoir le nombre exact des militaires qu'on a ramenés du Rwanda et leur sort, si on peut le savoir. Et la deuxième question, je la pose à Monsieur Mudumbai. Dans la foulée, la semaine dernière, le président ougandais a dit, je cite, « La MONUSCO n'est qu'une bande d'aventuriers et touristes en République démocratique du Congo. » Quelle peut être votre réaction? Merci.
Merci pour votre question, madame. Concernant les éléments dont vous faites allusion, je dois vous avouer humblement que, tout comme vous, je l'ai appris dans la presse, et je pense que, en vous rapprochant beaucoup plus des autorités gouvernementales du Congo, vous aurez beaucoup plus d'informations, parce que la MONUSCO ne les a pas capturés et la MONUSCO ne les a pas amenés à Kinshasa. Donc je pense que, en frappant à d'autres portes, vous aurez beaucoup plus de satisfaction, car je n'ai pas d'éléments palpables, plausibles à mettre à votre disposition.
Concernant votre deuxième question, d'abord vous devez savoir que l'action des soldats de la MONUSCO est soutenue par deux choses, le mandat et la règle d'engagement. Donc, en tout temps, nos soldats doivent se comporter d'une façon exemplaire et se maintenir dans ce rôle-là. Nos soldats aussi, quand ils sont en opération, ne doivent jamais oublier un seul instant qu'ils sont d'abord des soldats de la paix, avant d'être autre chose. Maintenant, je pense que dans les conférences de presse passées, les militaires qui étaient ici vous ont fait quand même un compte-rendu, non seulement du comportement de nos militaires sur le terrain, mais aussi de leurs actions. Nous avons même fait venir le chef d'état-major de nos forces ici pour vous donner des détails. Le chef d'état-major vous a dit, par exemple, que nos hélicoptères étaient sortis, que nous avons engagé nos chars et que nous avons engagé nos hommes sur le terrain. Le chef d'état-major vous a dit que nous avons tiré des missiles, des canons, que nous avons tiré des roquettes. Il vous a donné des chiffres. Je crois que c'est 1500 coups de mitrailleuse, 480 canons de 30 mm, etc., etc. Ça vous dit quand même que nos hommes se sont engagés sur le terrain. Le chef d'état-major vous a expliqué aussi dans quelles conditions nos hommes ont cessé le feu. Nous étions engagés sur le sol en soutien au FARDC. Et tout ce que je viens de vous dire, l'engagement de nos hélicoptères, l'engagement de nos chars, l'engagement de nos hommes sur le terrain, les coups de feu qui ont été tirés étaient en appui et pour soutenir l'action des FARDC sur le terrain. À partir du moment où les FARDC ont décroché du front, que leurs positions se sont retrouvées derrière nos lignes, que maintenant nous étions à la porte de Goma, nos éléments, je vous l'ai dit encore, sont d'abord conduit par ce concept de protection des civils. Si nous avions continué à ouvrir le feu à proximité de Goma et qu'il y avait des réactions de la part du M23, aujourd'hui la ville de Goma ne serait plus que des cendres.
parce qu'on aurait engagé des combats dans la ville, on aurait tiré des canons, engagé des hélicoptères dans la ville, il y aurait eu des milliers de morts. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire? La MONUSCO a massacré des civils. Notre action a protégé des vies. En contrôlant l'action, l'occupation du M23, en nous positionnant dans la ville, nous avons protégé non seulement des vies humaines, mais aussi des biens. N'oubliez pas aussi que pendant que tout cela se passait, l'aéroport, nous l'avons tenu. Contrôlant l'aéroport, nous avons aussi refusé de remettre au M23 du matériel militaire qui appartenait au FARDC. Autrement, ils y auraient mis la main. Pendant que nous étions à Goma, peut-être que vous ne le savez pas, plus de 2500 personnes sont venues se réfugier chez nous. Plus de 2500 personnes. Nous les avons protégées. Non seulement ça, nous avons monté des opérations pour exfiltrer, d'abord pour sortir des personnes en danger qui nous appelaient. Ce sont nos hommes qui sont allés dans les quartiers pour les sortir, sauver leur vie. Ensuite, il y a ceux qui ne pouvaient plus rester dans la ville de Goma, qui nous ont demandé de les exfiltrer de Goma. Nous l'avons fait. Donc, je vous laisse tirer les conclusions. Je vous laisse demander à ces 2500 personnes qui ont trouvé refuge chez nous si nous avons fait quelque chose pour eux. Aujourd'hui, de toutes les façons, je pense que les choses ont changé. Nous n'avons plus les yeux braqués sur les opérations militaires, mais sur les actions politiques et diplomatiques. Aujourd'hui, il y a une rencontre entre le M23 et le gouvernement qui se passe à Kampala, sous l'égide du président de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs. Nous nous en réjouissons. Nous soutenons et nous saluons aussi toutes les autres réunions diplomatiques et initiatives par l'Union africaine, par le SADC, par la CEAC, etc., etc. Donc, voilà ce que je peux dire en réponse à votre question. RTNC.
Oui, merci. C'est venant vous dire ça pour la RTNC. Vous venez d'ailleurs de le dire, M. Mounoubaï, à propos des assises ou de pourparlers qui se tiennent à Kampala. Est-ce que la MONUSCO y prend part? Sinon, pourquoi? Une autre petite question, porte-parole militaire. Ils se sont retirés, donc le M23, au lieu de 20 km, ils n'ont reculé que de 6 km. Et ils sont encore là dans les collines et vous continuez à faire votre travail. Concrètement, quelles sont les mesures pour le persuader à ce qu'il se retire de 20 km? Monsieur Sylvestre Ntumba Mudingay, vous avez dit qu'il y a des milliers d'élèves qui sont encore qui ont raté l'année scolaire, sinon tout un trimestre, parce que le premier trimestre se termine dans environ une semaine. Et vous avez certes lancé un appel à ce qu'on vous assiste à travers donc l'UNICEF, mais cet appel peut-il résoudre le problème du retard causé au niveau des enfants? Sinon, quelles sont les mesures prises pour récupérer le retard? Merci.
Merci beaucoup. Je crois que la première question, c'était pour vous, mon colonel.
Non, c'est pour qui?
La première question, c'était pour vous.
Je voulais savoir si la MONUSCO prend...
Non, ça c'est la deuxième question. La participation de la MONUSCO, c'est la deuxième question. C'est la première. OK? Simple. Non, la MONUSCO ne participe pas à ces discussions qui ont lieu à Kampala. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas partis au conflit. Humanitaire?
Je tiens à préciser ce que j'ai dit tout à l'heure. Je n'ai pas dit qu'il y a des élèves qui ont raté l'année. J'ai dit qu'il y a environ 240 000 qui n'ont pas connu une scolarité normale. Ça veut dire qu'il y a eu des circonstances qui ont fait que les cours ne pouvaient plus se donner normalement. Notamment quand les écoles sont occupées, par des hommes armés, notamment quand les personnes déplacées trouvent refuge dans ces écoles. Il y a de plus en plus des arrangements qui se font dans certaines écoles qui sont encore occupées, par exemple par les personnes déplacées, qui font que la journée, toutes ces personnes-là évacuent les salles et on laisse les élèves étudier, mais comme on vous l'a dit, beaucoup de bancs ont été cassés, détruits, utilisés comme boîte de chauffage. Ça veut dire que les enfants n'étudient plus tout à fait dans des conditions normales. Et je vous dis, vous ai dit que M. Soumaré, le coordonnateur humanitaire, était dernièrement à Goma. Et il y a eu aussi ce constat malheureux et qu'il y a dans certaines écoles où des hommes armés, des militaires notamment, ont entreposé des munitions et les élèves fréquente ces écoles-là avec des salles où il y a des munitions et ça présente un danger pour ces élèves-là. C'est pourquoi j'ai parlé d'une scolarité qui n'est pas normale, mais effectivement, il y a des cas où les cours sont effectivement complètement arrêtés.
Merci. Mon colonel.
Oui, concernant votre préoccupation relative aux injonctions qui ont été données au M23 pour le retrait de la ville de Goma à peu près 20 km, qui constituent à peu près les positions initiales avant le déclenchement de ces hostilités le 17 novembre. Je tiens tout simplement à préciser que les différentes réunions qui se sont tenues à Kampala avant la réunion de Kampala 6 qui est en cours avaient mis en place deux mécanismes. Premièrement, le mécanisme conjoint de vérification qui est un organe de la Conférence internationale des Grands Lacs, et une équipe d'évaluation militaire qui avait aussi pour mission d'évaluer aussi bien la force, la composante des groupes armés qui sont un peu à l'est. Donc, l'équipe d'évaluation militaire a terminé son travail, a remis ses conclusions qui ont précédé la réunion de Kampala 5. Alors, donc, pourquoi le M23 ne se retire pas de la ville de Goma? D'abord, je voudrais préciser que les chefs d'État ont pris des résolutions fermes qui sont exécutoires, qui ne devraient souffrir d'aucun manque de volonté, en tout cas, à conduire les décisions qui ont été arrêtées à Kampala. Le mécanisme conjoint de vérification qui est présentement à Goma depuis 2 ou 3 mois et qui a en charge justement le monitoring de ce processus, je pense qu'ils sont en train présentement de discuter ou de parler au M23 pour qu'ils se soumettent aux décisions des chefs d'État qui, à mon avis, je pense, sont les décisions qu'on ne peut pas discuter parce que ce sont des résolutions qui ont été prises et ce sont des injonctions qui ont été données au M23 quant à l'exécution réelle de ce processus-là. Le GVM, le mécanisme conjoint de vérification qui est sur place à Goma est en train de travailler à ce que le M23 puisse respecter ces résolutions auxquelles ils ont adhéré.
Nous allons prendre quelques questions sur la droite. Oui, devant vous.
Merci, messieurs les porte-parole. C'est Fiston Kazet de Numérica. Je suis un peu inquiet quand vous dites que vous êtes maintenant, vous êtes aujourd'hui, vous avez braqué les yeux normalement en rapport avec la rencontre de Kampala. Mais au cas où cette rencontre ne produit pas fruit, qu'est-ce que vous allez faire?
Merci. D'abord, encore une fois, il faut poser la question aux partis qui sont en négociation. Parce que c'est leur attitude qui déterminera la suite des événements. Ce n'est pas à la MONUSCO. Prochaine question, derrière.
Honoré Mbenga, je suis journaliste de l'agence presse associée APA. Merci, monsieur le porte-parole, de m'avoir accordé la parole. Ma question est destinée à monsieur le porte-parole. Dernièrement, donc vendredi, le Premier ministre a annoncé aux journalistes que, selon les experts des Nations Unies, le M23 a emporté les engins de l'office de route destinés à l'aménagement des voies publiques dans le Nord Kivu, pillé et emporté aussi les véhicules déprimés, mais à une destination qui reste à déterminer. Je voudrais savoir, monsieur le porte-parole, est-ce que les experts des Nations Unies ne peuvent pas nous indiquer la destination qu'auraient pris ces engins?
Bon, oui, c'est une bonne question. C'est une requête à la MONUSCO. Nous recevons toutes les requêtes. Mon colonel, est-ce que vous avez une réponse?
Personnellement, je n'ai pas de réponse à son interrogation. Mais je pense que tout simplement, ce qu'il faudra relever, c'est que des actes de pillage ont été commis aussi bien sur les établissements ou les édifices publics administratifs, la RDC. Maintenant, la destination, compris tous ces biens volés, vraiment, je donnerai ma langue au chat, mais je ne sais vraiment pas où ces engins ou ces matériels ont été acheminés.
Y aurait-il encore une question sur la droite? Pas la même personne. Oui. Non, pas la même personne. Oui, allez-y.
C'est Cédric Ouassiam pour Congo Web TV. Je voulais demander une question au Tchad. Quelle est la situation humanitaire à Nord Kivu?
S'il vous plaît, si vous permettez, je pense que Ocha a fait une description et ce qu'il a dit, vous allez avoir tout ça dans le verbatim qui répond exactement à la question que vous venez de poser. Ok, mais ceci étant dit, peut-être que Ocha veut rajouter quelque chose.
Je venais de vous dire tout à l'heure que nous organisons un café de presse demain à Lausonia, qui sera exclusivement consacré à la situation humanitaire au Nord Kivu. Donc, vous y êtes cordialement invité pour plus d'informations sur la question.
Nous allons prendre maintenant en face, des questions en face. Après la gauche, la droite, nous prenons en face. Chine Nouvelle.
Merci, c'est Steve Wembi pour l'agence Chine Nouvelle. Monsieur Mounoubaï, plus de 38 militaires rwandais sont détenus à la DEMIAP, dont nous trouvons 5 mineurs. Alors, je m'aurais posé la question de savoir, est-ce que dans votre programme D3R, vous avez un programme de rapatrier les mineurs comme prisonniers de guerre? Voilà, c'est ça la première question. La seconde question, c'est toujours à la MONUSCO, au Bureau conjoint des droits de l'homme, est-ce que les porteurs d'armes en RDC respectent la Convention de Genève? Merci.
Nous avons un programme de DDR qui concerne ce que vous appelez les mineurs, mais qu'on appelle les enfants associés avec les groupes armés. Bien entendu, si ces enfants sont mis à la disposition de la MONUSCO, nous allons les remettre à notre section chargée de la protection des enfants, et c'est eux qui se chargeront de ramener ces enfants dans leur pays. Mon colonel?
Non, je n'ai pas grand-chose à rajouter.
Convention de...
Est-ce que le porteur d'armes, donc je parle des FARDC et le M23, est-ce que ces deux groupes respectent la Convention de Genève? Merci.
A priori, l'armée gouvernementale devrait respecter les conventions de Genève parce que les États sont signataires aux différentes conventions, particulièrement celles de Genève. Maintenant, quant aux groupes armés, vous savez d'abord, premièrement, que quand ces gens-là se lèvent pour prendre les armes, d'abord, ils le font de manière tout à fait illégale, de manière tout à fait illégitime, et compte tenu des exactions que nous voyons qui sont de manière quotidienne exercées sur les populations civiles qui sont tout à fait innocentes, je pense que la question devrait vous être renvoyée parce que je ne pense pas que ce soit des gens qui vont quand même se préoccuper de la convention de Genève ou de quelque autre convention parce qu'ils n'en ont peut-être même pas connaissance. Et donc les actes qu'ils posent tous les jours disent de manière très claire que c'est des gens qui sont très peu soucieux des règles, contrats et autres conventions qui sont un peu respectées ou en tout cas mises en œuvre à travers le monde.
D'abord, c'est ce que nous appelons chez nous les conditionnalités.
parce que l'assistance que la MONUSCO apporte à FRDC, cette assistance est basée justement sur cette politique de conditionnalité. Et cette politique de conditionnalité veut que on se rassure que les différentes divisions ou régiments ou compagnies des FRDC qui reçoivent notre assistance, qu'il n'y ait pas en leur sein des personnes qui se sont rendues coupables de violations des droits de l'homme ou de manquements graves au droit international humanitaire. C'est aussi pourquoi, dans les formations que nous donnons au FRDC, nous parlons de tout cela, afin que les personnes en toute connaissance de cause aillent sur le terrain, sachant qu'il y a des lois, des règlements, des conventions qu'ils doivent respecter. Nous prenons notre question en face, derrière vous. La dame au fond.
C'est Patricia Panzo pour BioN Télévision. Ma question est celle de savoir, est-ce que l'aéroport de Goma est déjà occupé par les trois factions armées, dont la MONUSCO, les FARDC et puis le M23?
D'abord, il faut préciser que la MONUSCO n'est pas une faction armée. C'est une précision de taille. Et effectivement, suite aux décisions qui ont été prises à Kampala, il est question de mettre en place une force hybride neutre qui sera constitué d'une compagnie FRDC, d'une compagnie du M23 et d'une compagnie neutre qui pourrait être sous le commandement tanzanien. Le processus est enclenché. De toutes les façons, le sommet de la SADC l'a clairement défini. Le processus est enclenché. Maintenant, il ne reste plus que la mise en œuvre des décisions qui ont été arrêtées à Kampala. Jusqu'à présent, l'aéroport de Goma continue d'être sous la responsabilité et le contrôle de la force de la MONUSCO qui veille à ce que la sécurité soit assurée au maximum, aussi bien dans le site aéroportuaire que dans les environs du périmètre de l'aéroport de Goma. Cette force est toujours attendue et peut-être que dans peu de temps, nous la verrons se déployer sur le terrain.
Venez le micro sur la gauche. Nous allons prendre peut-être une ou deux dernières questions. Oui, devant vous.
Patrick Ngbanga pour l'expression. Je pose mes questions au colonel. Malgré les réunions diplomatiques, mais la situation au Nord Kivu reste tendue. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut sécuriser le cas de Muguga 3 pour qu'on ne puisse pas encore vivre des cas de viol et de pillage? Alors, la deuxième question, malgré les alertes de détresse que les déplacés et les réfugiés faisaient au cas de Muguga, mais la MONUSCO est arrivée en retard. Alors, pourquoi cela? Chaque fois, ça se répète. Que quand on attaque, on fait des alertes et puis vous arrivez en retard.
Or, les cas de Muguga, merci. On a compris la question. On va vous répondre parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mon colonel.
Tout de suite, pour vous dire que notre préoccupation n'est pas circonscrite au camp de Muguga 3. Il y a d'autres camps de déplacés et pour lesquels nous menons des activités de manière quotidienne, de manière récurrente, pour essayer de protéger ces camps de déplacés. Si vous aviez été à Muguga 3 ou dans les différents Muguga, vous verrez que c'est non seulement extrêmement immense comme camp, et deuxièmement, certes, le 1er et le 2 décembre, nous avons enregistré une attaque au camp de Muguga 3 et les pauvres déplacés ont été victimes d'actes que je considère tout à fait ignobles, parce que des gens déjà complètement démunis à qui on vient voler le peu qu'on leur a donné, je pense que ceci est un geste inqualifiable. Mais toujours est-il qu'en tout état de cause, effectivement, nous avons pris en compte la sécurité du camp de Goma en y menant de Bugunga, excusez-moi, aussi bien que d'autres camps d'ailleurs, et nous y menons des patrouilles de manière quotidienne, de manière récurrente. Toutefois, les opérations de police à l'intérieur du camp même de Muguga, ok, ces opérations de police, je pense que en écoutant le gouverneur Paluku il y a quelques jours, qui a pris la décision de mettre une police humanitaire qui sera chargée des opérations de police à l'intérieur. Mais nous continuons aussi bien à mener des patrouilles aériennes pour surveiller le camp qu'à mener des patrouilles à bord de nos engins et à pied pour sécuriser ce camp-là. Maintenant, quand vous dites qu'on arrive un peu tard. Je ne pense pas que ce soit la bonne version, parce que effectivement, dès que nous avons été touchés, nous nous sommes déployés sur le terrain. Malheureusement, le forfait venait d'être accompli et nous avons continué jusqu'à ce jour à assurer la sécurité des différents camps de déplacés qui sont un peu éparpillés dans cette zone-là.
Nous prenons une dernière question. Oui.
Oui, c'est André Chivodi pour Michapi Voice TV. Je voulais juste que l'humanitaire nous dise quelles sont les étapes qui sont prévues pour la distribution des kits scolaires à Goma.
C'est une question à laquelle l'UNICEF répondrait mieux que moi. Mais dans le cas de cette distribution, comme dans le cas des autres distributions, si vous voulez connaître le processus qui y amène, naturellement, il y a toujours des évaluations qui se font, il y a des réunions des partenaires qui se tiennent et qui décident de la réponse à apporter aux problèmes qui se posent. C'est vraiment sommaire ce que je dis, mais concernant les kits scolaires, je crois que si vous vous rapprochez de Cornelia, de l'UNICEF, vous aurez de meilleures informations.
Ok, je pense que nous avons pris notre dernière question. Merci beaucoup, merci à vous qui avez fait le déplacement. Merci à nos auditeurs qui nous ont suivis en direct, soit à la radio, soit sur Internet. Rendez-vous la semaine prochaine.
Oui. C'est ça, UNICEF, OMS, ça vient pas.
Non, nous on n'a pas besoin de c'est eux qui ont besoin de nous. Quand ils ont quelque chose... C'est là qu'ils viennent, mais... Oui. Il faut les censurer maintenant. Quand ils amènent le tour, on passe même pour un bras.
Oui, mais c'est vrai. Il faut pas un moment arriver.
Et après, ils vont venir dire qu'on n'a pas bien parlé.
Oui, il n'y a aucun problème. C'est surtout ça le problème.
Nous, en ce que nous concerne, nous continuons à assurer conformément cette mission de protection des populations civiles par notre présence récurrente, par notre présence permanente auprès des populations civiles, par les différentes patrouilles que nous menons, aussi bien à pied, en véhicule, qu'à bord de nos avions et de nos engins blindés ou à bord de nos aéronefs, pour essayer d'avoir une idée précise des mesures à mettre en œuvre pour assurer la population et la sécurité des populations. Ces mesures peuvent aller aussi bien de la dissuasion que de l'engagement direct lorsque ces populations sont directement confrontées à la menace, ou alors très souvent lorsque ces populations ont déjà été victimes de violations perpétrées par les groupes armés et que nous arrivons, nous apportons dans l'immédiat notre concours, notre protection et nous essayons de leur apporter les premiers soins et éventuellement les accompagner psychologiquement.